Portrait de compositeur flamand. Henri Tobie.
Dans la famille, nous sommes extrêmement fiers de lui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est mon frère, mais je vous assure que Rick Tobie est l'un des compositeurs les plus talentueux d'Anvers. La façon dont il peut mettre des points noirs et blancs sur les portées. J'ai déjà mentionné qu'il compose parfois une petite mélodie pour nous, les trompettistes de la ville, mais ce n'est pas tout. Il écrit pas mal de musique pour l'église Saint-Jacques et aussi pour l'église Saint-André, où il compose des motets et même des messes. Après son mariage avec Annemie, notre Rick a déménagé dans la rue de Meyer, appelée à tort la Meistraat de votre époque. Il a fait baptiser ses enfants dans l'église Saint-Jacques, où il contribuait à embellir la liturgie. En même temps, il continuait à jouer de la musique dans l'église Saint-André, l'église paroissiale de la population pauvre de la célèbre ruelle des Livres. Dans le quartier, il y avait aussi la rue de la Cuillère, un terme de montant. C'est une rue située au sud de la ville, parallèle à l'esplanade de la citadelle. Elle regorgeait de maisons closes et de mendiants. Le plus jeune fils de Rick, Yann, est devenu enfant de chœur à l'église Saint-André. Il compose, lui aussi, occasionnellement de la musique pour cette église. L'instrument préféré de Rick est sans conteste la clarinette. Il a beaucoup écrit pour cet instrument. La clarinette est alors un instrument relativement récent, mais bien connu dans nos régions depuis notre enfance. Je l'ai souvent entendu expérimenter avec la clarinette quand j'étais enfant, et au début de la vingtaine, il était déjà connu à Anvers comme un grand virtuose. C'est probablement pourquoi ils l'ont fait musicien de la ville sans même faire passer d'audition. Lorsque mon frère a rejoint l'ensemble, la musique de la ville comprenait 4 clarinettes et 2 bassons, et il n'y avait personne de meilleur que lui. Il emmène son instrument dans les petits et grands orchestres de la ville, ainsi que dans l'orchestre des aumôniers. Ce n'est pas tout. Il joue aussi du hautbois et du cor. Et dans l'ensemble de l'église Saint-Jacques, il aime jouer du violoncelle de temps en temps. Il n'est pas rare, dans notre métier, qu'un musicien joue plusieurs instruments. Mais la clarinette est quand même son instrument préféré, pour lequel il donne aussi des cours. Lorsque mon frère a commencé à jouer de la clarinette, l'instrument avait environ un demi-siècle. Déjà en 1720, le prêtre-compositeur anversois Johann Adam Faber avait écrit une messe pour l'Assomption de Marie, jouée dans l'église Notre-Dame, pour laquelle il avait composé une belle partie de clarinette et pas si facile. Mon frère avait 18 ans lorsque Faber est décédé, mais le vieux prêtre venait toujours au concert privé de la noblesse d'Anvers, auquel Rick était déjà invité. Comme je l'ai dit, mon frère aimait composer pour son instrument préféré. En 1772, il fait paraître 6 trios pour clarinette, violon et basse continue. Une musique plutôt élégante qui pouvait rivaliser avec ce qu'il y avait de mieux sur le marché international pour cette formation. Il a même convaincu l'éditeur parisien Le Menu de les publier. Le Menu était spécialisé dans la musique de chambre et les arrangements d'opéra, garantissant immédiatement une distribution en France et même à l'étranger. Hendrick finança lui-même la publication en travaillant sur des préventes et parvint à persuader ses amis et collègues de s'inscrire pour un exemplaire. Son meilleur ami, Van Hoff, en acheta un, tout comme le carillonneur de la ville, Johann Hufnagels, mais aussi ses collègues clarinettistes et musiciens de la ville, Deligne et Van Eckhout, en achetèrent un exemplaire. Entre 1772 et 1788, la publication figurait toujours dans le catalogue de vente de Le Menu, ce qui prouve que ces trios pour clarinette ont dû avoir un certain succès. À cette époque, il n'y avait évidemment pas beaucoup de répertoire pour cette formation particulière. Parmi les souscripteurs figurait également un certain Charles de Proly, qui financerait quelques années plus tard le deuxième recueil de Rick. Celui-ci fut publié à Anvers, chez Vandenberg, sous le titre d'Opus 2. Cette fois, il s'agissait de trio pour 2 clarinettes et un basson, mais Rick nota sur la page de titre que l'œuvre pouvait également être jouée avec 2 violons et une basse continue. il dédia l'œuvre à Proly, qui se chargea volontiers des frais d'impression. Charles de Proly était un entrepreneur et banquier anversois d'origine génoise, vivant dans un magnifique palais sur le marché aux chaussures, avec vue sur le vert du cimetière. C'est ce que vous appelez aujourd'hui la place verte. Mon frère a souvent joué dans son palais. De Proly était riche comme la mer est profonde et financer un recueil de musique de chambre d'un compositeur qu'il appréciait était pour lui une bagatelle. L'entretien de sa garde-robe seule coûtait 19 000 florins par an. Pour cela, l'imprimeur Plantin devait travailler plus de 50 ans. Il possédait également une magnifique collection de tableaux et quelques propriétés à l'extérieur de la ville. En tant que banquier de l'empereur, il avait reçu en cadeau du Nouvel An la dignité d'amiral de l'Escaut. Jusqu'à peu avant sa mort, il fut l'un des signoren les plus riches et influents où des invités de haut rang aimaient venir. À ce moment-là, même mon frère pouvait venir jouer de la clarinette. Il achetait ses clarinettes à partir des années 1780 chez son ami Jan Turlink à Malines. Avec son fils Cornelis, celui-ci dirigeait une entreprise qui employait une quarantaine de personnes au début des années 80. Tuerlings est toujours un nom connu dans le monde des facteurs d'instruments et les clarinettes et hautbois qui y sont fabriqués circulaient dans toute l'Europe. À Anvers aussi, grâce à mon frère, il y avait une certaine demande pour les instruments fabriqués à Malines. Malines n'est pas si loin d'Anvers maintenant. Avec la diligence, on y arrive en 3 heures, mais ce n'est pas exactement un moyen de voyage relaxant. Le voyage était ennuyeux et il était impossible de faire une sieste, car même par beau temps et sur une bonne route, la diligence pouvait vous secouer violemment. Dans ce cas, le bateau à vapeur, tiré par des chevaux, était peut-être encore le plus facile. Un bateau à vapeur est une large embarcation intérieure tirée par des chevaux le long du chemin de halage du canal. Pour le transport d'instruments de qualité tels que les clarinettes Tuerlings, c'était le choix le plus sûr. De plus, c'était moitié moins cher que la diligence, mais il fallait prendre son temps. Cela prenait facilement toute une journée, mais grâce aux excellents canaux et voies d'eau naturelles, c'était certainement le moyen le plus relaxant de voyager. À bord, on pouvait tranquillement bavarder, jouer aux cartes ou simplement fumer sa pipe et profiter du paysage qui passait devant vous à une vitesse moyenne de 7 km/h jusqu'à ce que vous voyiez réapparaître dans le lointain la tour de Notre-Dame. Si ce n'est pas une expérience magnifique ?